Histoire locale, le moulin de Penarver. Il n'est permis qu'à l'homme noble ou son héritage de faire manoir, moulin et étang. Les moulins à marée de Kerazan. Durant l'Ancien Régime, les terres nobles de la seigneurie de Kerazan s'étendaient très au-delà du périmètre actuel du manoir. Elles incluaient des parcelles où étaient édifiés des moulins à vent et à marée. L'activité meunière de la seigneurie était de bon rapport en raison de la production céréalière locale et de la capacité de production continue utilisant le vent et la marée. Les plus anciens propriétaires connus sont les familles de Kerflouz, Draoulen, de Lesnalec et le gentil de Rosemont-Duc. Au gré des successions et mariages, le parc de moulins évolue de même que leur dénomination. Le grand moulin de Kerazan, également dénommé Arveibraz, sera appelé Moulin du Sunair par son rattachement à la métairie du Sunair selon les actes notariés, puis Moulin de Penarver, ou Penarver, au XIXe siècle, nom retenu pour la suite de l'article. Le petit moulin de Kerazan, Arveibion, deviendra le Moulin du Dourdi au début du XXe siècle. Il sera complètement abattu par Gustave Moussion, qui y fera construire un nouveau bâtiment pour y abriter une petite centrale électrique servant à alimenter le château du Dourdi et la ferme aux normes les plus modernes qu'il vient de faire construire sur le site. Le bâtiment sera par la suite transformé en messe des officiers lors de l'occupation des lieux par la marine et l'école des mousses en 1945, puis aménagé en bureau lors du rachat du domaine par la Caisse régionale des allocations familiales en 1966. L'existence du moulin de Penarver est mentionnée pour la première fois dans un acte notarié de 1609. Monsieur de Kerflouz barre en amont l'anse de Penarver et crée l'étang et construisit le moulin à marée de la métairie du Sunair en 1718. René le Gentil de Rosemont-Duc l'agrandit et le transforme en le dotant de deux systèmes de moutures. À la Révolution, le dernier seigneur de Kerazan, Ange-Louis-Aimé le Gentil de Rosemont-Duc, émigre et le domaine est saisi et vendu comme bien national. Le 15 Messidor, an 2, 15 juillet 1794, M. Derrien de Brest devient propriétaire du manoir de Kerazan et de ses dépendances. Sa fille, veuve le Normand de Varanès, suite à la faillite de son défunt mari, doit vendre Kerazan, sa féculerie, et enfin revendre la métairie du Sunair et le moulin le 11 septembre 1844 à Monsieur Cosmao Duménez, maire de Pont-l'Abbé. Le moulin quitte la propriété de Kerazan. Sa fille, Alix Cosmao Duménez, épouse Monsieur Gustave de Grandseigne, d'Hauterive, receveur des douanes à Pont-l'Abbé. Elle décède en 1865. Le comte se remarie avec Marie de Kerstrat. Devenue veuve en 1882, elle rachète la lande de Penarver avec le moulin à ses beaux-enfants. Elle y fait bâtir trois villas qu'elle loue aux touristes et conserve le moulin et ses occupants. Elle le revend à son fils Henri en 1896, tout en se conservant l'usufruit. En 1914, Jean Pennec, meunier à Kerfintin, achète le moulin. Il sera exploité jusque dans les années 1920. Il subit certainement la concurrence des moulins modernes, beaucoup plus productifs car ils sont équipés de cylindres et non de meules de pierre. Moulin Nécluse, la minoterie mêle. À l'abandon, il servira de carrière de pierre. En 2005, la commune de Noctudy acquiert l'étang, la digue, les ruines du moulin et la parcelle attenante. Le fonctionnement du moulin. Le moulin désigne originellement un couple de meubles destinés à concasser et réduire en farine des graines de céréales, mais par extension, le terme de moulin désigne aussi plusieurs entités. Le mécanisme hydraulique qui sert à tirer l'énergie du mouvement de l'eau, le mécanisme de mouture, production de la farine, sont aussi interdépendants du moulin, la digue et l'étang. La digue chaussée barre un bras de mer. l'anse de Penharver, alimentée par le ruisseau Arlus, la truite, pour former l'étang du Suller, le réservoir d'eau ou bief du moulin. Une large ouverture dans la digue permet de remplir l'étang à marée montante. Elle est équipée d'une vanne clapet à deux vantaux ou porte de mer. Au jusant, la porte se referme automatiquement sous l'effet de la pression de l'eau. La position de la digue dans l'anse de mer est déterminée de façon précise. Elle doit répondre à deux impératifs. Créer un réservoir d'eau suffisant, adapté à l'exploitation, et permettre à la roue du moulin d'être hors d'eau à mi-marée. En effet, tant que la roue est partiellement immergée, elle ne peut pas avoir un rendement efficace. La digue est percée par deux canalisations. Les coursiers équipés de vannes manuelles, dites vannes ouvrières. À mi-marée descendante, le meunier ouvre la vanne du coursier. L'eau libère frappe l'épingle de la roue à aube. Le mouvement créé entraîne la meule tournante par l'intermédiaire d'engrenages en bois. L'action de l'eau peut durer environ 6 heures à chaque marée, soit deux séquences de travail possibles par jour. La roue du moulin tourne donc de la mi-marée descendante jusqu'à la mi-marée montante. L'ensemble mécanique est débrayable pour arrêter le travail ou effectuer une intervention technique. Il est majoritairement en bois. Simple et ingénieux, il facilite des réparations rapides pouvant être effectuées par des artisans locaux. Dans la famille Roland, trois générations de ferronniers loctudistes ont participé à la maintenance du mécanisme. Le mécanisme de mouture, le moulin. Situé à l'intérieur du bâtiment, il est composé principalement de deux meules en pierre de Champagne ou parfois de Rouen et d'un coffrage réceptacle de la farine. Le principe consiste à faire pénétrer les grains par gravité entre deux meules percées en leur centre, dont l'une tourne à grande vitesse et l'autre est fixe. Les céréales sont éclatées et broyées entre les parois progressivement du centre à la périphérie. La farine obtenue est acheminée vers l'extérieur dans le coffrage des meules par l'intermédiaire d'un réseau de sillons radio taillés sur la surface des meules. Un ou deux paires de meules, la présence de deux coursiers dans la digue et une mention dans un acte, aveu, de 1609, conforte l'hypothèse que le moulin était équipé de deux mécanismes. L'une mue à partir d'une roue verticale à aube située en extérieur. Le moulin blanc réservé à la farine de blé, l'autre par une roue horizontale à godet ou une roue verticale à aube située à l'intérieur du moulin. Le moulin roux pour le sarrasin ou les moutures gardant le son. La découverte d'un vestige de roue à aube dans le second coursier plaide pour la seconde hypothèse. La seconde meule sera peu exploitée et son coursier obturé. Les bâtiments. Le bâtiment de production prend appui sur la digue côté mer. Il est réalisé en moellon de granit. Sa base amont est consolidée sur toute sa longueur. Le pignon de la roue à aube est renforcé par un arc boutant évidé pour permettre l'écoulement de l'eau du coursier. Dans son prolongement, on trouve une crèche pour animaux, une longère puis de petites dépendances. Les couvertures des bâtiments furent végétales, puis progressivement remplacées par de l'ardoise. Les meuniers. Avant 1789, le droit féodal permet au seigneur de contraindre les habitants de son domaine à utiliser un équipement dit banal, tel que four, moulin ou pressoir, moyennant redevance. Pour tenir le moulin banal, le meunier passe avec le propriétaire un contrat de fermage qui a une durée moyenne de 9 ans. L'affermage s'élevait à 250 livres en 1743 et à 319 livres en 1778. Le petit moulin de Kerazan était affermé, quant à lui, à 132 livres en 1754. Le moulin de Penharver était le plus important de la région. Son fermage était très supérieur à celui du moulin de Porzmoreau à Pont-l'Abbé. Le contrat traite des devoirs et droits du meunier, le preneur. Les devoirs, à titre d'exemple. Servir des moulins selon la coutume du duché de Bretagne. Le meunier doit moudre le grain des sujets de la seigneurie dans un rayon de 2400 toises, environ 5 kilomètres, autour du manoir. Il s'agit du droit de suite du moulin. Acquitter des loyers aux dates prévues, avoir des poids justes et conformes, entretenir les tournants et les moulins. Les matériaux pouvaient être à la charge du bailleur, leur façonnage et ouvrage du preneur. Les droits. De mout. Le meunier se rétribue en prélevant 1/16 du poids de farine traité. Droit de pêche, parfois. Droit de pâture. Les meuniers sont parfois accusés de profiter du monopole de clientèle pour tricher et voler grains et farine. En 1789, dans leur cahier de doléances adressé au roi, les habitants de Noctudie demandent que la banalité des moulins, fours et halles soit abolie ainsi que la coutume. Ils veulent pouvoir faire moudre leurs grains dans le moulin de leur choix. Après 1789, il y a peu de changements dans les principes de fermage. Par contre, la disparition du droit féodal de suite des moulins favorise la construction et le rachat des moulins. Elle crée une concurrence entre les meuniers. Ils deviennent des négociants en meunerie et doivent embaucher des aides pour assurer la collecte des céréales et la livraison de la farine. Ils doivent aussi faire preuve d'une grande honnêteté. Des familles de meuniers. Deux familles de meuniers et meunières ont vécu au moulin sur plusieurs générations. Les Tagnoux, de 1701 à 1750, dont Corentine Bernard, veuve Tagnoux, les Tirilly, de 1881 à 1914, Jean Tirilly et son épouse Anne-Marie Lorrain seront les derniers occupants du moulin. Jean avait obtenu le droit de pêche dans l'étang du Sunner. Il louait d'autre part des terres à Penharveur. Les familles logeaient sur place pour veiller au grain à chaque changement de marée. L'acheminement des céréales et des farines s'effectuait par deux voies, le chemin de Briémène et un chemin longeant la rive nord de l'étang à partir du Sunner. Les conflits entre bailleurs et preneurs pouvaient se régler au tribunal. Ainsi, en 1891, le meunier demande une expertise de moulin en mauvais état et attend un procès à son propriétaire, Henri de Grandsaigne d'Hauterive, le fils de Marie de Kerstrade. Le moulin en l'an 2000. Petit à petit, l'ensemble du site se dégrade et met en danger la pérennité des ouvrages. Dans les années 1930, le pont en bois sera démoli et remplacé par une dalle en béton. La reconstruction du moulin est un projet évoqué dès 1980. Il se concrétise en 2002 par la création de l'Association pour la reconstruction du moulin de Penharveur. Elle souhaite créer sur le site de Penharveur un pôle d'animation tout public, unique en Finistère, à partir du moulin reconstruit et opérationnel et l'aménagement de l'étang. La municipalité adhère au projet et achète en 2007 le moulin, la digue et l'étang. Les études techniques sont pilotées par des spécialistes de moulin à eau, Jean Istin et Joël Saulnier, accompagnés des membres de l'association. Les initiateurs du projet sont très actifs. Jusqu'en 2011, des chantiers de déblaiement et de consolidation des ruines sont organisés. La mairie renforce la digue. En juillet 2011, l'exposition des moulins du Pays Bigoudin est organisée à la médiathèque. Le dossier s'étoffe, dons de matériaux, recherche de partenariats et de financement, projet de chantier civique et d'insertion. Puis le projet est mis en sommeil, faute de maître d'ouvrage. En 2015, la mairie restaure la digue, la porte de mer est élargie, les coursiers ouverts, la sécurité est assurée par des gardes-corps. En 2016, une plaque d'interprétation conçue par HLPL est posée. En septembre 2022, lors des Journées du patrimoine, le site du Moulin a accueilli une exposition et une animation destinées à des scolaires de Noctudie.